vais continuer sur la prière à la lignée qu'on avait commencé la dernière fois. Et vous voyez, j'ai pris plein de notes. Les notes, ça ressemble à des rébus.
Tant que c'est toi qui t'en sors.
Ouais, je me comprends, moi. Enfin, parfois j'ai des doutes, quand même. Je sais plus, mais grosso modo, ça va. Alors, peut-être on pourrait la lire ensemble, si vous avez envie, pour se la rappeler. Grand Vajradhara, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Seigneur du Dharma Kampopa, connaisseur des trois temps, omniscient Karmapa, détenteur des lignées des quatre anciennes et des huit nouvelles écoles, Dri, Tak, Tsel, ces trois lignées, la glorieuse Drukpa, etc., les maîtres de la profonde voix du Mahamudra, les incomparables protecteurs des êtres, les Dakrokagu, je vous adresse ma prière, la Makagu, je me rattache à votre tradition, accordez-moi votre grâce que je suis votre exemple. Le détachement constitue les jambes de la méditation, ainsi enseigne-t-on. Sans être possédé par les nourritures et les biens, le méditant coupe les liens de cette vie. Accordez-moi votre grâce que je sois détaché des honneurs et des possessions. La dévotion est la tête de la méditation, ainsi enseigne-t-on. Pour la main qui ouvre la porte du trésor d'instruction orale, le méditant adresse continuellement sa prière. Accordez-moi votre grâce qu'une dévotion sincère naisse en moi. L'attention sans distraction est le corps de la méditation, ainsi enseigne-t-on. Quelques pensées qu'il apparaisse, son essence et sa nouveauté immédiate. Le méditant y reste simplement sans artifice. Accordez-moi votre grâce que la méditation soit libre d'intellection. La nature des pensées est le dharmakaya, ainsi enseigne-t-on. Elles ne sont rien et pourtant toutes apparaissent aux méditants qui les fait s'élever en un jeu d'expérience ininterrompue. Accordez-moi votre grâce que je réalise l'inséparabilité du samsara et du nirvana. En toute mes naissances, puissais-je ne pas être séparé du parfait lama et jouir ainsi de la splendeur du dharma. En accomplissant les vertus des chemins et des terres, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Alors, de la dernière fois, on avait vu la première strophe qui concerne les maîtres. Et je crois que je m'étais arrêté à Gampopa. Je n'avais pas parlé du Karmapa, il me semble. Donc, en fait, la lignée, c'est quelque chose qui va être très important dans le bouddhisme, mais particulièrement dans le bouddhisme tibétain. Parce que, en fait, on va avoir jusqu'à la première terre de Bodhisattva, on va être assailli par les doutes sur le chemin. La première terre, en fait, ça correspond à un niveau de réalisation où on commence à voir les choses telles qu'elles sont directement. Et à partir de là, on va avoir beaucoup moins de doutes sur le chemin, sur la voie, parce qu'on commence à voir les choses telles qu'elles sont. Mais jusque-là, eh bien, on va traverser voilà, des épisodes où ça ne va pas forcément être facile. La pratique, ça va, ça vient. À un moment donné, on est dedans. À un moment donné, on n'est plus dedans. Et puis, on peut être assailli par les facteurs perturbateurs. Par notre pratique, elle peut nous sembler bancale. Mais si on sait que la lignée auquel on se rattache, elle est puissante, qu'elle est forte, qu'elle est ininterrompue, qu'elle est pure, bah du coup, ça va nous permettre de ne pas remettre en question la méthode. On va pouvoir se dire, ok, là c'est bancal, mais c'est pas le problème de la méthode, c'est que juste, bah, je traverse des épisodes difficiles qui sont passagers, et puis bah, si je continue à pratiquer, si je suis les instructions, ça va finir par... l'obstacle va finir par être dissipé, quoi. Et c'est un peu comme dans n'importe quelle, finalement, n'importe quelle discipline, on va demander à quelqu'un de nous apprendre un métier, une formation, bah, on a besoin de savoir, bah, cette personne, c'est quoi ses diplômes, c'est quoi ses références, d'où elle vient, c'est quoi son expérience, etc. Donc c'est pour dire à quel point en fait ça va jouer un rôle très important, parce que par exemple on peut trouver plein de choses aussi, c'est pas parce qu'on pratique le dharma qu'on ne continue pas à s'inspirer d'autres paroles de sagesse, d'autres traditions, d'autres maîtres spirituels. Mais parfois, il y a des figures comme ça, qui ont certainement une très grande réalisation, mais en même temps, comme c'est des individus isolés qui ne se rattachent pas à une lignée, bah ça va être difficile, quand on va rencontrer des obstacles, de se fier simplement à eux. Notamment, voilà, je ne sais pas si ça vous parle, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'Osho récemment.
C'était pas moi, mais je
Et
connais.
puis bah, moi, tout ce que j'ai lu d'Osho, ça m'a inspiré, quoi, ça m'a parlé. Et puis cette personne, elle m'a dit, le problème, c'est que quand je me renseigne sur la vie d'Osho, il y a des choses que je trouve très discutables, parfois compromettantes, etc. Vous voyez, c'est de ça que je veux parler. C'est quand on se rattache à une lignée de transmission, bon, bah, si y a un épisode dans la vie du maître qui est bancal, etc., bah, on sait que derrière, il y a toute une lignée de transmission, toute une lignée d'éveillés. Et donc, du coup, oui, effectivement, il va y avoir des maîtres qui vont avoir une attitude conventionnelle, d'autres moins conventionnelles, mais quelque part, s'il est reconnu par l'ensemble de la lignée, on peut se dire, ok, ça va. Quand c'est juste un individu isolé, eh ben, bien sûr, on peut continuer à être inspiré. Mais si on a des doutes et que c'est juste une personne isolée qui fait son truc, ça ne va pas suffire. À un moment donné, on ne va pas pouvoir totalement se sentir en confiance, se dire, est-ce que c'est vraiment cette personne? Je peux vraiment faire confiance à ses intuitions. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on met beaucoup l'accent sur le fait que on peut se fier à une lignée quand elle est pure et qu'elle est ininterrompue. C'est-à-dire qu'on peut vraiment remonter jusqu'au Bouddha Sakyamuni. Et puis elle est pure dans le sens où si on regarde tous les maillons de la chaîne, ils se sont tous éveillés. Ça veut dire que l'enseignement du Bouddha, la réalisation du Bouddha, elle parvient jusqu'à nous. Il n'y a pas de perte en ligne. Les maîtres qui vont la transmettre, ils vont transmettre l'essence de l'éveil. Donc si ils ont réalisé l'éveil aujourd'hui, c'est que l'enseignement est toujours valide aujourd'hui, il est encore puissant, il est encore d'actualité. Donc on peut se dire, voilà, ok, je peux espérer, moi aussi, me rattacher à la lignée, devenir un maillon de la lignée, c'est-à-dire m'éveiller comme les êtres l'ont fait. Et dans la notion de lignée, ce qui est important aussi, c'est que la rencontre avec un instructeur de la lignée, ou la rencontre avec un maître, ou avec voilà, quelqu'un qui a une grande réalisation, ou quelqu'un en qui on fait confiance aussi, pour nous transmettre le dharma, même si voilà, dans la sangha, ben on va se référer aux gens qui sont en chemin, on va partager entre nous notre expérience de pratiquant, on va partager avec la sangha, avec les moines, avec les lamas, avec les maîtres, etc. Et c'est pas des événements isolés. D'ailleurs, quand on voit même dans la vie des maîtres, c'est pas, il y en a un qui a été voir un maître et puis qui lui a demandé des instructions et puis ça y est, c'est bon, il a été dans sa grotte, il a réalisé l'éveil. Non, en fait, on voit que c'est pas un événement isolé, c'est en fait, on va revenir solliciter des instructions, demander des conseils encore et encore pour valider ou pas les expériences qu'on fait. On fait une expérience et puis qu'elle soit bonne et mauvaise, parfois faut être vigilant parce que même les bonnes expériences, ça peut être intéressant d'aller les valider auprès de quelqu'un. Parce que moi, ça m'arrivait très souvent hein, d'aller voir mes tuteurs et de leur parler de mes expériences que je trouvais formidables. J'étais super content de leur annoncer. Et puis en fait, ouais, c'est bien, mais c'est pas. Ouais, ça casse, mais en même temps, moi, ça m'a permis de, par exemple, bien comprendre ce que c'est que la méditation. Je me souviens, il y a pas si longtemps, c'était un séminaire avec Ringo Rinpoche, donc il y avait une centaine de personnes, on était au Portugal, et puis je crois que Ringo Rinpoche, il parlait du renoncement. Et à la fin de l'enseignement, j'avais levé la main, je lui avais dit. Ben voilà, moi, le renoncement par rapport à l'attachement aux choses du monde, aux possessions, tout ça, je commence à comprendre, etc. Mais le problème, c'est que depuis que voilà, je m'aperçois que quand je pratique chiné, ben je me sens l'esprit est stable, donc il est plus paisible. Donc du coup, comme je me sens plus paisible, bah, je me sens plus enclin à avoir de la compassion. Il y a moins de facteurs perturbateurs, donc je suis plus heureux, plus compassionné. Le problème, c'est que dès que je sors de cet état-là, eh bien, bah, je me sens plus... Voilà, l'anxiété revient, les facteurs perturbateurs reviennent, l'égoïsme revient, et puis je suis moins avec les gens, etc. Et du coup, je vois bien que je me suis pas attaché aux choses du monde. Enfin, je suis moins... Je vais pas dire, hein, ça serait prétentieux de ma part, quoi. Mais je suis moins enclin à m'attacher aux choses du monde, ce que je comprends. Mais par contre, la méditation, voilà, je me saisis par rapport à ça. Et il m'a dit très justement, en fait, c'est parce que ce que vous dites là, vous ne parlez pas de la méditation. Vous parlez des expériences de la méditation. Vous ne parlez pas de la méditation. Et, 15 ans qu'on me répète la même chose, mais bah, il a... parfois, en fait, bah, ouais, ça ne va pas forcément rentrer, quoi. Le fait d'être bien, le fait d'être paisible, le fait de se sentir rempli de compassion, c'est pas la méditation. C'est des expériences de méditation. Au même titre que le fait de pas se sentir bien, ou de se sentir agité, ou de se sentir sous l'emprise des facteurs perturbateurs, à partir du moment où on est conscient, c'est ça la méditation. La méditation, c'est d'être conscient de ces expériences, mais c'est pas la méditation. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais rapporter une expérience à mes instructeurs, etc., et ben, du coup, chaque fois, j'avais la même réponse. Oui, ok, c'est bien, c'est ni bien ni mal. Voilà, c'est ni bien ni mal. Les expériences de béatitude, c'est ni bien ni mal. L'expérience de calme, c'est ni bien ni mal. Évidemment, ça montre que la méthode fonctionne. Mmh. Puisque chiné, c'est le fait de stabiliser l'esprit. Donc, si mon esprit est stable, la méthode fonctionne, mais ce n'est pas la méditation, la véritable méditation. Donc, c'est important, en fait, de même les bonnes expériences, d'aller valider. Comme ça, ça nous permet de... Enfin, moi, ça me permet de bien cibler où est-ce que ça m'oriente, enfin, où est-ce que le dharma veut m'emmener. Pas rechercher spécialement des expériences particulières, par exemple. Pareil, il y a quelqu'un qui m'avait dit ce week-end qu'il faisait des expériences de sortie de corps. Mmh. Voilà, moi, j'ai jamais fait ça, mais donc la personne, elle m'expliquait... bah, parfois, je suis en méditation, et puis je vois que mon corps sort. Et je me retrouve dans un état très subtil, très léger, et je trouve que tout est bien, et j'ai envie d'y rester, etc. Et donc, moi, je lui ai dit, bah, en fait, cette expérience, je ne l'ai pas goûtée, donc je ne sais pas. Mais par contre, je vais te dire ce que disent mes maîtres quand je leur rapporte ça. Ils disent, c'est ni bien ni mal, c'est juste une expérience. Mmh. Enfin, voilà. C'est tout ce que j'ai pu lui dire, quoi. Mais quelque part, c'est, d'après ce que moi, j'ai reçu comme transmission, je ne pouvais pas lui dire autre chose. Mmh. Et vraiment, quelle que soit l'expérience qu'on fait, même si elle est très extraordinaire, ça reste des expériences.
Ouais. Ouais, en même temps, on dit sans arrêt que les expériences agréables, il ne faut pas les rechercher, parce que ce n'est pas le but.
Ouais. Mais si, il se peut qu'elles arrivent.
Oui, c'est ça.
Et donc, du coup, à ce moment-là...
On ne peut pas se dire ce jour-là, ah, aujourd'hui, j'ai bien...
Ouais, c'est ça.
Super,
ouais.
Et que ouais. Le jour où ça n'arrive pas, on dit, aujourd'hui, j'étais nul, bah non.
Ouais. Parce que sinon, on passe à côté.
Il ne faut rien attendre et puis il faut laisser passer comme le reste.
Ouais.
C'est le plus difficile, justement.
Ouais, ouais. Et puis ça va être de plus en plus difficile. Enfin, ça va pas être plus difficile parce qu'on est prévenu. D'ailleurs, si on a bien compris cette instruction-là, on va pas se faire avoir. N'empêche que plus on va méditer, plus on va faire des... Il se peut qu'on fasse des expériences très profondes, quoi. Et en plus, qui vont s'installer dans l'esprit pendant plusieurs jours. Et quand ça s'installe pendant plusieurs jours, ben on a tendance à se dire, bah voilà, c'est ça, ça y est, je suis enfin arrivé. Et puis on sent pas, on voit pas que le truc est... parfois on peut vraiment se dire, c'est stable. On voit pas que le truc il va partir. Et le truc il part. Et quel que soit, ça franchement, je vous l'assure, quelles que soient les expériences qu'on fait où vraiment on se sent, on peut se sentir parfois invincible, les peurs qui nous assaillaient avant, on les éprouve plus pendant un long moment et on commence à se dire, c'est terminé. Ben, je peux vous assurer que quand ça part, d'abord ça part, et puis ça part très vite. Donc si, entre-temps, on s'est attaché à ça en se disant... Eh ben, on va quand même courir après. Comment ?
Impermanent.
Tout est impermanent.
Anicca,
ouais. C'est un... Voilà, c'est un piège dans lequel on peut facilement tomber, parce que c'est tellement bon. Enfin, c'est humain aussi. Voilà. Enfin, un peu de répit. Enfin, on surfe sur la vague.
Mais moi, j'ai eu une expérience comme ça quand j'ai fait Vipassana. J'étais plus en méditation, en fait. On attendait son tour pour passer pour. Les enseignants nous appelaient tous les deux jours, un après l'autre, pour nous demander comment ça se passe, etc. Et puis j'attendais mon tour, et on était tous avec des masques. Et à un moment donné, j'ai ressenti. D'abord, je crois que c'était une espèce de cliquetis. Je me disais, c'est quoi ce bruit? Mais j'étais éveillée, j'étais pas en train de méditer, j'attendais mon tour juste. J'entendais, je ne savais pas comment le définir parce que c'était un petit bruit, comme un petit tintement, comme ça j'avais l'impression, mais ce n'était pas un tintement, je ne savais pas comment le définir. Et j'ai mis des longues minutes à comprendre qu'en fait c'était, quand je respirais, je m'étais rendu compte qu'en fait c'est le bruit venait et partait. C'était le froissement du masque quand je respire, que j'expire, ça faisait un petit froissement, mais imperceptible. Et moi je l'entendais comme si c'était un écho dans une église, quoi. C'était, et j'entendais ça. Et je me rendais compte que j'entendais ça alors que j'étais pas en méditation, j'étais éveillée. Là aussi, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive, quoi.
Tu ronflais, en fait.
Non. Mais non. Mais sérieusement, ça faisait ce petit bruit de clocher tout fin. Et j'ai réalisé, hein, avec ma respiration, parce que j'ai arrêté de respirer, ça ne le faisait plus. Dès que je respirais, ça recommençait. Et effectivement, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était le masque qui se froisse, mais imperceptiblement. Mais moi, j'étais hyper amplifiée, comme si... C'était une expérience incroyable, quoi. Mais je savais que ça n'allait pas durer, mais c'était bizarre, quand même.
Ouais, ouais.
Très bizarre. Je pense que les sens, ils étaient tellement aiguisés après 10 heures de méditation que... Je sais pas.
Ouais, c'est vrai que la méditation, en plus, si on en fait dans un contexte un peu à l'écart des distractions dans un monastère pendant plusieurs jours, c'est vrai qu'on peut arriver à une conscience plus subtile des choses. Et quand on revient à notre vie grossière, en fait, ça part assez vite, quoi. Et c'est comme ça. Enfin, quelque part, le dharma ne nous invite pas à rester au niveau subtil. On est des êtres humains dans le samsara, dans un corps, dans un corps humain, donc un corps grossier. Faut manger, faut dormir. Donc, y a pas à rechercher la libération dans quelque chose d'autre. Si on se met à trop chercher le subtil, trop chercher les conditions favorables, un environnement calme, etc., après ça peut devenir un obstacle. Donc voilà, c'est important de sans arrêt aller interpeller, solliciter les lamas, les maîtres, c'est leur job, quoi. Alors certains, ils disent parfois, ouais, j'ai pas le temps, lama, il n'hésite pas, hein. Et c'est tout à son honneur, en fait. Il a le courage de dire aux gens pas tout de suite, j'ai pas le temps, parce qu'il veut quand même vérifier que la personne faut faire le tri dans les sollicitations, quoi. Il y a des sollicitations qui sont importantes, la personne elle veut vraiment quelque chose, et pour mesurer que c'est précieux pour elle, et ben parfois on va dire pas tout de suite, ou pas le temps, comme ça la personne elle revient à la charge. Et puis ça fait le tri, il y en a qui, en fait c'était juste une question comme ça qui leur traversait la tête, et puis ils ne reviennent pas dessus. Mais en tout cas, c'est leur job. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire qu'il ne faut pas que je dérange le lama, il a déjà plein de choses à faire. Son job, c'est d'être lama, c'est d'être disponible pour les gens. Donc, s'il sent que la demande est importante, et puis si ça concerne le dharma, rassurez-vous, quoi. Il est tout à fait disposé à transmettre ça, et puis c'est le sens qu'il a donné à sa vie, en plus. Donc les maîtres, les lamas, tout ça, donc faut pas hésiter. Alors il y a juste une petite parenthèse que je voulais faire, je sais plus pourquoi, mais je pense que c'est parce qu'il y a un lien après. Dans l'enseignement du Bouddha, on va parler de quatre principes. Et ces quatre principes sont très importants. Le premier principe, c'est plutôt que de se fier aux mots, il faut se fier au sens véritable. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est plutôt que de se fier à l'individu, il faut se fier au dharma. Le troisième principe, c'est plutôt que de se fier à la vérité relative, faut se fier à la vérité ultime. Et enfin, le quatrième principe, c'est plutôt que de se fier au sens provisoire, il faut se fier au sens définitif. Et ça y est, je sais pourquoi je veux parler de ça. C'était surtout pour le quatrième principe. Le quatrième principe dit, plutôt que de se fier au sens provisoire, il faut se fier au sens définitif. En fait, ça fait référence à quelque chose qui est très caractéristique de l'enseignement du Bouddha, c'est que dans les enseignements du Bouddha, on va trouver des choses qui, selon le contexte, vont nous apparaître différentes. À un moment donné, à tel endroit, dans tel contexte, il dit ça, puis dans un autre contexte, il va dire quelque chose qui est complètement différent. Et donc, on pourrait se dire, c'est contradictoire, quoi. Le Bouddha va donner beaucoup d'enseignements qui sont pas tout à fait, qui expriment pas tout à fait la réalité telle qu'elle est, la vérité telle qu'elle est. Mais il va le faire parce que il va estimer que la personne, ne pouvant pas comprendre la vérité directement, il lui faut une marche intermédiaire. Donc il va lui donner des enseignements qui vont lui permettre, si elle comprend ça, si elle applique ça, d'accéder à un niveau de compréhension plus profond. Et sans cette marche intermédiaire, cette personne n'a pas accès à ça. Donc c'est pas tellement qu'il dit pas la vérité, il ment pas, mais simplement il va donner un enseignement, provisoire, qui n'est pas un enseignement direct de la vérité, mais juste une marche intermédiaire. Et on va parler des enseignements de sens provisoire. J'en avais un peu parlé en fait la dernière fois quand on parlait de travailler sur les émotions. À un moment donné, le Bouddha il va dire les émotions négatives. On va parler des facteurs perturbateurs. Les émotions, certaines émotions sont négatives. Donc, si elles sont négatives, sous-entendu, si on se laisse emporter par ces émotions, on accomplit des actes qui vont être source de souffrance pour nous-mêmes, pour les autres. Et donc, du coup, il faut abandonner ces émotions-là. Il faut lâcher prise. Il faut pratiquer chiné. Il faut apaiser l'esprit. Et dans un autre contexte, le Bouddha va enseigner les émotions sont la nature de l'esprit, ne sont pas autres que l'esprit. L'esprit étant pur par nature, tout ce qui émerge est pur par nature. Les émotions sont sagesse en essence. Donc il n'y a pas à refuser les émotions, il n'y a pas à les bloquer, il n'y a pas à les considérer comme négatives, elles sont pures par nature. Et les reconnaissant, on les libère et on arrive à l'éveil. Dans l'autolibération, on reconnaît les émotions pour qu'elles sont, elles s'autolibèrent immédiatement, et à ce moment-là, l'esprit demeure en paix. Donc vous voyez, à un moment donné, on dit les émotions négatives, et puis à un moment donné, on dit les émotions sont sagesse. Voilà, c'est ça que je veux parler, c'est que si on n'est pas averti, il y a contradiction, quoi. Mais dans tous les enseignements, que ce soit par exemple les sutras, où on voit la vie du Bouddha, on voit toujours que quand il donne un enseignement, au début du sutra, on pose le contexte. Le Bouddha se situait dans le parc de Jakarta avec une assemblée de moines, et puis tel disciple arrive et puis pose sa question. Voilà, on place le contexte, et grâce au contexte, on va comprendre pourquoi le Bouddha, à telle personne, il va dire ça, alors que dans un autre contexte, il va dire peut-être autre chose. Et au début, c'est un peu, ça peut paraître un peu confus, quoi. Et puis, au fur et à mesure, on commence à avoir l'habitude de mettre dans le contexte. On a reçu beaucoup d'enseignements et on est capable de discerner, tiens, ça c'est enseignement de type provisoire, ça c'est enseignement de type définitif. En fait, c'est plus simple que ça en a l'air. Définitif, c'est que dans un enseignement définitif, on voit qu'il n'y a pas d'élaboration. C'est très direct. Un enseignement provisoire, ça fait toujours appel à quelque chose. Par exemple, la réflexion. Méditer sur l'impermanence, c'est provisoire. Parce que ça fait appel à une réflexion, ça fait appel à un outil, à une méthode. On va réfléchir, on va faire appel à l'intellect pour comprendre. L'enseignement définitif, c'est on voit directement la vérité. Par exemple, apprendre à pacifier les émotions, c'est provisoire. On est en train encore de fabriquer quelque chose. on met en place de la méthode. Plus c'est direct, moins il y a de méthode. Provisoire, c'est voilà, on apprend à pacifier les émotions, ou alors on apprend à transformer les émotions, ou alors on apprend à méditer sur l'amour, sur tout ça, c'est provisoire. Et en même temps, c'est faut surtout pas les négliger, ces enseignements, parce que c'est ces enseignements qui vont nous permettre de pouvoir comprendre les enseignements les plus directs. Là, je voulais en venir, en fait, c'est que donc la lignée du Mahamudra, la lignée de Dorje Changtugma, ça s'adresse donc c'est une lignée, la prière s'adresse au maître du Mahamudra. Et les maîtres du Mahamudra, le Mahamudra, c'est l'enseignement le plus définitif qui soit dans le bouddhisme. C'est vraiment des maîtres qui ont une vision directe des choses et qui vont enseigner de manière très, voilà, très directe. Et si on comprend les enseignements du Mahamudra et qu'on sait les mettre en pratique, il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est la méthode la plus efficace, la plus rapide, la plus. Ben encore faut-il savoir la mettre en pratique. Mais si on sait faire ça, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a vraiment plus rien à faire. On peut se dispenser de toute forme de pratique. Il n'y a même plus de méthode. Alors, je m'étais arrêté à Gampopa. Ah oui, pour vous dire aussi pourquoi c'est important la confiance. C'est pour vous dire aussi pourquoi c'est la confiance dont on parle, par exemple, la confiance dans la lignée, la confiance envers un maître, la confiance envers un guide. C'est quelque chose qui... au bout du compte, la véritable confiance, elle ne naît que de l'expérience. On ne peut pas avoir une confiance absolue en quelqu'un, même si vraiment c'est un très grand maître, même si on le suit depuis des années, même si on n'a pas... En fait, la confiance ne peut pas atteindre le niveau 100% tant qu'on n'a pas fait l'expérience. Ça sera toujours un petit peu artificiel. Et il y a une histoire qui illustre ça, je ne sais plus si je vous l'avais raconté, c'est que Milarepa, donc... dont le disciple de cœur, c'était Gampopa, le dernier enseignement qu'il lui dit, avant de lui dire, maintenant c'est la dernière fois qu'on se voit, il lui dit, tu sais, quand tu me verras comme le Bouddha, indifférencié du Bouddha, ça sera le temps pour toi d'enseigner. Et donc Gampopa, il quitte son maître, et puis il va faire la pratique de son côté, et à un moment donné, il va réaliser l'éveil. Et ce n'est qu'au moment où il réalise l'éveil, qui comprend que Milarepa est un Bouddha parfaitement accompli. C'est-à-dire que avant, même quelqu'un comme Gampopa qui avait une confiance absolue, qui était peint comme avoir une dévotion absolue envers Milarepa, et ben il a eu la confiance absolue qu'il était Bouddha qu'au moment de la réalisation. C'est-à-dire au moment de l'expérience. C'est important de le savoir, quoi. Que finalement il n'y a que la pratique et l'expérience qui nous apportera une confiance totale dans les instructions et la lignée. Alors ensuite, Gampopa, il avait comme disciple très important le Karmapa. Donc le Karmapa, c'est un maître très important dans la lignée Karmakagyu. Et c'est depuis le Karmapa... Alors, petite parenthèse, c'est depuis le Karmapa qu'il y a eu le système des tulku, c'est-à-dire des maîtres qui donnent des instructions pour reconnaître leur réincarnation. Avant, ça n'existait pas. Avant le premier Karmapa, Dusumkempa a annoncé au moment de mourir, je vais me réincarner 100 fois en tant que Karmapa pour aider les êtres. Et suite à ça, il a donné l'instruction pour reconnaître sa réincarnation suivante. Karmapa, ça veut dire celui qui a l'activité du Bouddha. Celui qui manifeste l'activité du Bouddha, Karmapa. L'activité éveillée. Et le problème avec ce système... Aujourd'hui, c'est un système qui est très controversé. Il y a plein de maîtres aujourd'hui qui se disent « Est-ce qu'on le garde, ce truc ?» Parce que à la fois, ça a donné des trucs très bien. Bon, c'est sûr, le Karmapa, ils ne se sont pas plantés. On en est au 17e. Et quand on voit la vie des 17 Karmapas, on voit que ça a tous été, ils ont tous une activité très particulière et très puissante. Au niveau de la propagation du dharma, au niveau de la puissance de leur vie, une éthique sans faille, enfin, voilà, des personnages très, qui ont eu voilà, une grande réalisation. Mais parfois, il y a eu des gros plantages, quoi. Et puis, il y a eu des magouilles aussi. Parce que ça... Et encore aujourd'hui, hein. Enfin, voilà, le bouddhisme n'est pas épargné par bah, toute la corruption. Voilà, comment faciliter la... Comment on appelle ça ? La succession à la tête d'un monastère. Ah bah très bien, on va choisir un enfant. On va dire c'est la réincarnation de machin. Et puis, on va le mettre à la tête du monastère, voilà, tranquille. Ouais, il y a eu plein de trucs comme ça. Il y a eu des réincarnations pas forcément reconnues. Enfin, reconnues, mais ce n'était pas la bonne personne, quoi. La personne n'avait pas les épaules pour ça, n'avait pas la réalisation, etc. Mmh. Donc aujourd'hui, hein, beaucoup de maîtres se posent la question, le Dalai Lama aussi hein, se pose la question, est-ce que ce système, il est encore valide? Est-ce qu'il y aura un 15e Dalai Lama? Mais tout ça pour dire que le premier, c'était le Karmapa. Et donc, pour la petite anecdote, il y a un jour, Gampopa a fait venir trois de ses disciples principaux. Il y avait le Karmapa, il y avait un disciple qui s'appelait Pagmo Drukpa, et un autre, Saltong Shugum. Et il leur dit, je vous donne rendez-vous dans... Je vous ai raconté ça, histoire du chapeau. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, et puis vous me faites un chapeau. Vous avez 7 jours pour en faire un chapeau. Et donc, du coup, le premier, Pagmo Drukpa, c'est un disciple très, très soigneux, très diligent. Donc, il s'y met tout de suite. Et puis, il confectionne un chapeau très élaboré, avec plein d'ornements, très soigné, très joli. Le Karmapa, il a bien entendu ce que Gampopa a dit, mais l'idée ne lui vient que la veille. Il a une idée, etc. Et donc, du coup, il lui reste peu de temps. Alors, avec un seul morceau de tissu, il va faire un pliage très, très compliqué. Il va en faire une coiffe, très simple, mais en même temps... Enfin, un pliage compliqué, mais qui rend la chose très compacte et très solide. Et puis, Saltom Shugum, lui, débarque... le jour même, et puis les deux disciples disent, mais tu te souviens que c'est le jour du rendu, là, Gampopa, le maître attend le chapeau. Ah ouais, j'ai complètement oublié, donc il prend un morceau de tissu, puis il fait vaguement un truc qui ressemble à un chapeau, quoi. Et puis, ils vont rendre ça à Gampopa. Et donc, Gampopa, il voit le premier chapeau de Pagmo Drukpa, et lui dit, voilà, toi, t'as fait un chapeau très élaboré, très beau, avec beaucoup d'ornements. Ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de lignées. Et ensuite, il prend le chapeau du Karmapa. Il dit, toi, il n'y a pas beaucoup d'ornements. Par contre, tu as fait quelque chose de très solide et de très compact. Et du coup, ça veut dire que tu vas avoir une seule lignée. Mais cette lignée va être puissante. Et sa puissance va gagner au fur et à mesure du temps. Et puis ensuite, il prend le chapeau de Saltong. Saltong Shugum, puis il lui dit, toi, t'as été trop négligent, t'auras pas de lignée du tout. Et donc, il s'est avéré que la plupart des lignées viennent de Pagmo Drukpa. Toutes les lignées, en fait, qui sont citées, quand on dit détenteur des lignées des quatre anciennes et des 8 nouvelles écoles, Dri, Tak, Tsel, ces 3 lignées, la Glorious Drukpa, etc. Tout ça, c'est des lignées qui viennent de Gampopa, et notamment de Pagmo Drukpa. Il y aura beaucoup de lignées. Du Karmapa va venir la lignée Karmakagu, auquel on se rattache. Et cette histoire, elle illustre le fait que très souvent, on va voir des histoires comme ça dans la vie des maîtres. Les maîtres vont donner des petites instructions qui paraissent anodines, et puis en fait, par rapport au résultat qui va être donné, ils vont faire des prophéties. Parfois, ça peut être cette nuit, vous allez, je vous propose quand vous vous réveillerez demain, de noter vos rêves, et puis vous venez me les rapporter le lendemain. Puis les disciples s'exécutent, Et en fonction de ce qu'ils ont rêvé, eh ben, le maître va définir des choses. Donc ça, ça veut dire que tu dois pratiquer ça, ou ça, ça veut dire que tu vas avoir telle activité, voilà, des choses comme ça. On appelle ça des tendrels, c'est une sorte de connexion. Et des connexions, donc c'est très lié au karma. Le karma, on nous dit... Le karma, c'est difficile, en fait, de comprendre ce que c'est, parce que c'est très difficile d'estimer le résultat du karma. Parce que c'est une grosse bouillie. C'est pas linéaire, je plante une graine et puis j'ai tel résultat. Dans la notion de karma, il y a le fait qu'on peut planter une petite graine et on va avoir des résultats très... on peut avoir des énormes résultats. Des résultats très, très vastes. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, soit on plante une graine positive, une petite graine positive qui va avoir un impact énorme, selon l'intention, selon la motivation qu'il y a derrière. Et ça marche aussi, une petite graine négative peut aussi avoir des conséquences énormes. Donc, du coup, c'est difficile d'estimer un résultat parce que, admettons qu'on ait qu'on ait fait un acte négatif. Considère selon la loi du karma qu'il y a des conséquences. Et effectivement, il y a des conséquences, sauf qu'entre-temps, on peut avoir planté un petit acte négatif, un petit acte positif. Et le fruit de cet acte négatif va être très très vaste. Et du coup, va peut-être absorber l'empreinte qui restait de l'acte négatif qu'on a consommé. Donc en fait, voilà, on nous dit... Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas négliger un seul acte. C'est-à-dire, tout peut avoir d'importance. Et dans la relation avec un maître, eh ben, on fait vachement attention. On devrait en fait faire attention. On devrait faire attention à tout ce qu'on fait en général. Mais parce que justement, on s'en est remis, par exemple, à un instructeur, on va d'autant, ça va nous inviter à faire d'autant plus attention. Même quand le lama va nous dire, voilà... ok, on va recevoir. Oh, est-ce que tu pourrais préparer le repas ce midi? Ça peut être un truc comme ça. Ça nous invite en fait à faire les choses consciencieusement. Parce que c'est le lama, c'est le maître qui nous le dit. Ah, il y a peut-être un moyen d'établir des connexions karmiques fortes. On peut peut-être avoir. Donc on fait, voilà, on va bien faire les choses, on va être bien, bien vigilant au cas où. Mais en fait, on devrait avoir cette attitude vis-à-vis de chaque personne, de chaque être, même un animal. Il ne faut jamais négliger un seul être. Et c'est là aussi qu'intervient la notion de l'importance de la prière. Dans le bouddhisme tibétain, on va beaucoup mettre l'accent sur la prière parce que justement, c'est quelque chose, c'est on plante un acte par la pensée. C'est pas un... Et ça, on ne le néglige pas. Dans la vie de tous les jours, on voit que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, y a une intention derrière, il y a une motivation derrière. Et on voit que même dans nos préoccupations de tous les jours, les préoccupations quotidiennes, l'intention, la motivation qu'on a, elle nous pousse à agir et ça peut et ça transforme nos vies. Ça peut vraiment changer le cours des choses, ce qu'on fait, ce qu'on dit, etc. Et ben dans le développement spirituel, c'est pareil. Si on veut transformer notre esprit, si on veut réaliser l'éveil, on va accorder beaucoup d'importance à la prière. Voir que si on fait une prière vraiment du fond du cœur, en alimentant tout notre cœur, toute notre motivation, ça peut vraiment changer la donne.
Mais si les prières, quand je lis et je comprends pas tout, c'est ça donne parce que
Ouais, je vais y revenir parce que justement, on va avoir des exemples. Ouais. Là... Par exemple, je vous adresse là, à chaque fin de strophe, il y a « Je vous adresse ma prière, la Makagu » ou alors « Accordez-moi votre grâce ». Là, dans le premier, on prie pour « Je vous adresse ma prière, la Makagu, je me rattache à votre tradition, accordez-moi votre grâce que je suis votre exemple. » Là, la prière, c'est « Je veux devenir comme vous. Je veux devenir un maillon de la lignée. Je veux devenir un représentant de la lignée. La lignée, c'est pas quelque chose qui... on n'est pas censé pratiquer exactement comme les autres avant nous. Et les instructions qu'on reçoit, elles ne sont pas forcément exactement ce que les autres ont eu avant nous. Par exemple, quand on dit préserver une lignée, transmettre une lignée, ou devenir un maillon de la lignée, ça ne veut pas dire que, à un moment donné, la lignée s'est constituée, et puis ça n'a pas bougé, ça ne bouge plus. C'est comme si, par exemple, il y a 2500 ans, on faisait le pain comme ça, et que l'idée, c'est de mettre ce pain au frais, de façon à ce qu'il ne moisisse pas, quoi. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que aujourd'hui, peut-être qu'il y a 2500 ans, on faisait le pain comme ça, mais si on comprend comment on fait, rien ne nous empêche d'utiliser la farine d'aujourd'hui avec le four d'aujourd'hui et puis de faire un pain qui sera délicieux parce qu'on a compris l'essence de la transmission. Et donc, du coup, c'est pour ça que les maîtres contemporains sont importants, parce que, ayant compris l'essence de l'enseignement, ils vont pouvoir nous donner des instructions qui sont totalement adaptées à notre mode de vie, qui n'a rien à voir avec comment on vivait avant. Et donc, les problématiques, il y a plein de problématiques qui ont changé. Il y a des problématiques qui n'existaient pas avant et qui sont là aujourd'hui. Et puis, voilà. Et de la même façon, si on devient détenteur, dépositaire de ces instructions, parce qu'on les comprend profondément, la façon dont on les transmettre, on va pouvoir aussi transmettre notre expérience avec, sans forcément rester sur les mots. Justement, quand je disais faut se fier au sens plutôt qu'aux mots, sans rester sur les mots, ça fait aussi référence à... Je fais des parenthèses parce que ça m'a semblé... Désolé, hein, si c'est un peu... Je dis beaucoup de choses, mais vous savez, on a beaucoup de problèmes de traduction aujourd'hui. Par exemple, le mot dukkha. Le mot dukkha, on le traduit par souffrance, mais après, on dégrossit. Il y a des gens qui s'intéressent à la langue tibétaine, ils vont dire, ouais, ok, mot souffrance, d'accord, mais on pourrait peut-être plutôt utiliser imperfection. Imperfection, insatisfaction, ce serait peut-être plus juste. Mais il y aura toujours quelqu'un pour... on ne trouvera jamais un consensus total, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire, ouais, mais... Voilà, en même temps... imperfection, moi je dirais plutôt insatisfaction. Puis l'idée, c'est de comprendre le sens, parce que si on s'arrête au mot, on ne pourra jamais trouver le mot. Mais si on comprend le sens, quelque part tout va bien, on peut ne pas s'arrêter au mot. Par exemple, dans certaines traductions, moi j'ai lu puissions-nous atteindre l'état de Bouddha. D'ailleurs, je crois que c'est formulé comme ça, hein, dans la prière de refuge, atteindre l'état de Bouddha. Eh bien, moi, je vais préférer, par exemple, utiliser le mot réaliser la bouddhéité. Parce que atteindre, ça veut dire, c'est là-bas. Puis, puis ça peut introduire la notion de c'est là-bas. Donc, je vais faire mon chemin et puis je vais atteindre l'état de Bouddha. En plus, état de Bouddha, comme si c'était une sorte d'état statique, un état d'esprit. Moi je vais dire, si on utilisait le mot réaliser, parce que réaliser, ça renvoie au fait que l'état de la bouddhéité, elle est là, simplement on ne le sait pas. Donc ça introduit l'idée que le chemin, c'est simplement de voir ce qu'on est. C'est déjà là, il n'y a pas à l'atteindre, c'est déjà là, mais simplement l'idée, c'est de le réaliser, de le savoir. Mais il y aura quelqu'un qui va dire, réaliser, etc. Hein, Barbara, tout ça pour dire que finalement, faut pas rester trop bloqué sur les mots. Quand on comprend le sens, tout va bien. Voilà, on peut. Il y a quelqu'un qui va dire atteindre l'état de Bouddha, ça va. Hein, Barbara.
Oui.
Voilà, ça va.
Ça va. Okay.
Et après, voilà, on s'accommode des traductions et on n'est pas trop intransigeant, quoi, sur ça. Parce que sinon, c'est des débats sans fin. C'est comme bouddhisme, religion, pas religion.
Oui.
Ah oui, on peut en parler pendant des heures, mais finalement. Bon, alors j'attaque quand même la deuxième strophe qui parle de bah justement le détachement constitue les jambes de la méditation. Lama Tsultrim, il n'utilise plus détachement, il dit renoncement. Et c'est vrai que si on se réfère au mot tibétain, ce terme-là, c'est plus fort que le détachement. C'est vraiment le renoncement. Même parfois, c'est le dégoût du samsara. Et il y a des personnes qui disent, qui m'ont dit, mais le renoncement, le dégoût, c'est vachement fort comme terme. C'est presque. C'est parce que. Il faut bien comprendre que quand on parle de ça, le terme est fort et à juste titre. C'est vraiment, il s'agit vraiment du renoncement. Il s'agit vraiment même de quelque chose de marre, quoi. On en est écœuré, mais on ne parle pas du renoncement au monde à ce moment-là. C'est sûr que si on entend renoncement au monde, bah, c'est fort, c'est même brutal comme approche. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Quand on parle du renoncement constitué genre de méditation, on ne parle pas du fait de renoncer au monde, renoncer au phénomène du monde. On parle de renoncer à l'illusion qu'on se fait par rapport aux choses. Là, c'est très différent, et c'est pour ça que le terme est fort. On en a marre de l'illusion, de toutes les histoires qu'on se raconte par rapport au monde, par rapport à ce qu'on envisage comme étant le bonheur, ce qu'on envisage comme étant le malheur, tout ça. C'est des fabrications de l'esprit qui nous enferment et qui nous maintiennent dans la confusion. Et l'idée, c'est de vraiment en avoir ras-le-bol de ce fonctionnement parce que ça nous fait souffrir au bout du compte. Quand on parle donc le renoncement constitue les jambes de l'invitation, voilà, j'en ai déjà parlé. Hein. C'est vraiment de comprendre que notre mode de fonctionnement par rapport aux choses, ne fait que générer de la souffrance. Tant qu'on pense que le monde peut nous apporter une véritable satisfaction, que les phénomènes du monde, c'est là qu'il faut trouver le bonheur, la paix, le refuge, on va se planter. C'est-à-dire, on va vraiment être confronté à l'insatisfaction, à la déception, sans comprendre que ça vient de notre façon de percevoir les choses. On décrète que le bonheur, c'est ceci, cela. Le malheur, c'est ceci, cela. Alors, bah voilà, on en avait parlé rapidement la dernière fois. C'est par exemple envisager que certains phénomènes du monde sont susceptibles de nous apporter satisfaction totale. Par exemple, ça peut être la richesse, la renommée, le plaisir. Ce qu'on cherche habituellement, à l'état ordinaire, on pense que le bonheur, c'est associé au plaisir, le malheur, c'est associé au déplaisir. Le malheur s'associe au fait de gagner de l'argent, d'être riche. Le malheur s'associe au fait d'être pauvre, d'être démuni. Associé à la renommée. Renommée, c'est bien. Disgrâce, c'est pas bien. Anonymat, c'est pas bien. Les louanges, c'est bien. Les critiques, c'est pas bien. Et en fait, on se laisse complètement... on devient esclave de ça. Tout le monde est d'accord pour dire, bah ouais, le fait d'être que complimenté, ça... Bah oui, quelqu'un qui nous complimente, c'est chouette. Et il n'y a aucun problème quoi, à éprouver du plaisir. Aucun problème à éprouver du plaisir par rapport au fait que les gens nous complimentent ou vantent nos qualités ou nous parlent. Mais si on se laisse trop attacher par ça, si on regarde les choses profondément, la même personne qui nous complimente un jour, bah, le lendemain, bah, en fait, peut tout à fait nous critiquer. Et si on est trop sensible à ça...
C'est bien pour les infirmières, ça.
Ah, c'est bien. Ouais, faut... Spéciale dédicace aux infirmières. De voir qu'en fait, tout ça, c'est juste des circonstances. Et c'est très lié à la perception des gens. Que si on se laisse trop... trop atteindre par le fait que, ah, compliment, ah, on se sent bien, etc., et bien, quelque part, on se prépare à souffrir quand le lendemain, on va passer de la louange à la critique, quoi. Et on est, voilà, parfois, on est très sensible à ça. Et si on regarde profondément, bah, quelque part, on se laisse pourrir la vie. Il n'y a pas si longtemps, il y a une personne dans la même journée. Hein, il y a une personne qui m'a dit le matin, en gros, bon, c'était pas comme ça qu'aime la Bible, c'était presque ça, quoi. Elle m'a dit, ah, franchement, ce matin, t'as vraiment une sale gueule, quoi. Bon, elle se le permettait parce que, bon, je la connaissais, elle ne me l'a pas dit sale gueule, mais elle m'a dit, vraiment, t'as une tête de cadavre, quoi. Wow. Bon, faut encaisser le matin. Moi, je me sentais bien à la base, ouais, quoi, ouais. Tu vois, bon, ok. C'était dans le réfectoire, je prenais un petit déjeuner. Ok, merci. Et dans la même journée, il y a une personne qui m'a dit, ah, t'as l'air rayonnant là, en ce moment. Ben, voilà. Alors, je ne me sentais pas plus... Donc, comme quoi, c'est vraiment des histoires de perception. Et que si on est trop accroché à ça, bah, voilà, on se tape des ascenseurs émotifs comme ça, et on se laisse balloter parce qu'un tel a dit ça, et puis ensuite il dit ça, et du coup, bah, voilà, faut voir que tout ça, c'est très transitoire, c'est très circonstanciel, et pas se laisser trop affecter par ça. Le renoncement, donc, c'est vraiment... C'est pas renoncer à la louange à ce moment-là. C'est renoncer au fait de trop accorder de crédit à ça, à penser que c'est la louange qui va nous rendre heureux, qu'il faudrait être aimé de tous, qu'il faudrait que tout le monde nous complimente, que personne ne nous critique, que tout le monde, voilà, que tout le monde nous aime. Parce que, bah, au bout du compte, ces choses-là, c'est transitoire. La richesse, c'est pareil. La richesse, on peut obtenir la richesse et c'est bien. Mais on voit que ça ne va pas suffire pour nous rendre heureux et que la richesse peut poser aussi d'autres problèmes. Des problèmes qu'on n'avait pas avant d'être riche.
À Vipassana, ils appelaient ça un peu l'avidité.
Ah.
Et quelquefois, on retrouve effectivement ça.
Bah oui, si on est persuadé que tant qu'on n'aura pas ça, on ne sera pas heureux, et ben on est sans arrêt en train d'essayer de combler quelque chose qui ne peut pas être comblé. Ça, on ne peut pas... on appelle ça la soif. On cherche le bonheur ailleurs qu'en nous-mêmes, donc on se trompe de direction. On ne peut pas combler. Les phénomènes, le Bouddha enseigne, les phénomènes sont insatisfaisants. Ils n'ont pas le pouvoir de nous combler. Ce n'est pas parce qu'ils sont bien ou qu'ils ne sont pas bien. Ils sont ce qu'ils sont. Transitoires, impermanents, et étant ce qu'ils sont, bah, le plaisir, même si ça nous apporte une satisfaction, on ne peut pas maintenir le plaisir non-stop. On ne peut pas maintenir la même intensité. Même à l'échelle d'une glace, quoi. D'une glace, après, c'est terminé. Tel plaisir qu'on peut éprouver, bah, si on aime un plat, bah, il suffit qu'on le mange tous les jours non-stop pour en être dégoûté. On peut pas. Et c'est pas la faute du plaisir. C'est pas le plaisir qui nous fait souffrir, c'est nous qui pensons obtenir satisfaction en recherchant encore et encore la même expérience. Et puis, on parlait de l'expérience de méditation, ça marche pareil. On pense que on sera heureux quand on sera. Quand on n'aura plus de pensée, par exemple, quand l'esprit sera tout le temps calme, donc on aura beau s'enfermer dans une grotte ou dans un monastère avec des gens sympas, etc., à un moment donné, ça va exploser. Il suffira d'un petit caillou pour que ça... Et on pourra essayer de se faire, allez, je vais me remettre sur mon coussin pendant des heures, etc., allez, foutez-moi la paix, les oiseaux, ça peut finir par nous déranger, quoi. Mais ça ne marchera pas. Et plus on va comprendre ça, plus on en aura ras-le-bol du samsara. L'idée du renoncement, c'est cette idée de compréhension. Renoncement, c'est pas faux pas. C'est pas parce que quelqu'un nous a dit faux pas ou faux. S'il y a un faux ou il y a un faux pas, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est que le renoncement. On dépend encore de quelqu'un qui nous a... Le renoncement, c'est vraiment on comprend. Je vois ce fonctionnement chez moi et j'en ai ras-le-bol. Je sais que ça va me faire souffrir. Je veux plus croire à ça. Donc on dit non à quelque chose, on dit non à l'illusion, mais c'est pour dire oui à quelque chose d'autre. C'est pas non pour dire non, c'est j'en veux plus ce fonctionnement parce que je veux dire oui à la lumière, oui à la paix, oui à la lucidité, etc. Et parfois, il y a beaucoup de gens qui disent les bouddhistes, en fait, vous fuyez le monde. Notamment pour les moines, hein. J'ai souvent entendu ça, que les moines, quelque part, ils fuient le monde. Mais en fait, si on y réfléchit bien, on ne peut pas. C'est impossible. On peut se dire, hein, allez, j'en ai marre de tout ça, ça y est, je me tire, je vends la maison, je vends la voiture, et puis maintenant je vais sur une île déserte. Mais quelque part, on emporte notre esprit avec nous. Donc, où qu'on aille, si on dit, ouais, j'en ai marre de ces gens-là, leur façon de penser, et puis ils sont toujours comme ci, comme ça, et puis on se disputait. On peut aller à l'autre bout du monde, si on se disputait avec des personnes à tel endroit, on va se disputer avec d'autres personnes à l'autre endroit, faut pas. Ou alors on trouvera toujours quelque chose à redire. Samsara, tant qu'on est dans le samsara, eh ben on fait feu de tout bois. Il y a toujours un prétexte pour ne pas être satisfait. Même si on va sur Holy Island, Ménard, eh ben on va trouver qu'il y a trop de vent, que les poneys ça fait trop de bruit. Mais on trouvera toujours du gramout parce que le samsara, ça fonctionne comme ça. Et puis vous pouvez vous dire, bah, je vais aller dans un monastère. Ça a été ma démarche. Hein. Je vais aller dans un monastère. Parce que là-bas, les gens, ils sont bienveillants, ils travaillent tous sur eux-mêmes, puis ce qu'ils disent, c'est vachement bien, etc. Et je ne vais pas faire de commentaires, hein. Mais quelque part, on retrouve exactement la même chose. Bah oui, parce que... Alors, ça n'enlève en rien l'utilité d'un centre bouddhiste, d'un monastère, parce que c'est très intéressant de travailler avec, dans la même orientation avec des gens, etc. Mais on emporte notre samsara avec nous, donc on retrouve tout ce qu'on retrouvait. On peut pas fuir le samsara, on peut pas se libérer du samsara en fuyant le monde, c'est impossible. On va retrouver tout ça. Il y a une histoire qui illustre ça, c'est que Rinpoche utilise souvent, c'est l'histoire d'un berger qui vit au-dessus d'un village, sur une colline, et puis il fait paître ses moutons. Et en dessous, il y a il voit passer des voyageurs qui se rendent au village. Et un jour, il y en a un qui vient le voir et qui lui dit voilà, dites-moi, berger, je me rends au village là-bas, j'aimerais bien m'installer. Est-ce que vous pourriez me dire comment sont les villageois qui vivent ici ? Alors, le berger réfléchit, il dit comment ils sont d'où vous venez, comment sont les gens là-bas? Et donc le mec lui répond les gens chez moi, ils sont tout le temps en train de râler, ils se plaignent tout le temps, ils sont pas accueillants, ils sont égoïstes, etc. Il pense qu'à eux. Vous savez, hein, dans le village là-bas, c'est pareil. Les gens que vous allez voir, ils sont pas accueillants, ils sont tout le temps en train de faire la gueule, ils râlent tout le temps, etc. Et puis, quelques jours plus tard, il y a un autre voyageur qui vient. Et pareil, il vient le voir. Dites-moi, berger, est-ce que je me rends au village là-bas? J'aimerais bien m'installer. Est-ce que vous pourriez me dire comment sont les villageois là-bas? Puis pareil, le berger lui dit, ça dépend. Comment sont les gens là d'où vous venez? Ah, les gens d'où je viens, ils sont formidables, ils sont accueillants, ils sont toujours serviables, ils sont toujours souriants. Ah, vous savez quoi? Dans le village ici, c'est pareil, ils sont tous accueillants, souriants, etc. Et ouais. Et c'est vrai, hein.
C'était un sage.
C'était un sage, en fait.
Mais. Non, malheureusement.
Quelque part, il n'y a pas de raison que. On le voit, hein, dans notre vie, quelqu'un qui est toujours serviable avec nous, qui a toujours des attentions, on a envie, hein, d'être. On a envie d'être attentif à lui, d'être souriant, d'être bienveillant. Et ça marche comme ça. Si la plupart du temps, avec les gens, on se montre attentif, bienveillant, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de retour. On projette le monde qu'on perçoit. Donc, voilà, quand on parle de le renoncement, ce que ça doit développer chez nous, c'est une lassitude. Vraiment une lassitude de ce mode de fonctionnement. Et quand on a cette lassitude, eh bien, on a la base. On a la base pour avancer sur le dharma. C'est pour ça qu'on dit le détachement constitue les jambes de la méditation. Parfois, on va dire les pieds de la méditation. Les pieds, les jambes, c'est la base et c'est ce qui nous permet d'avancer. Tant qu'on n'a pas ce renoncement, cette lassitude, non seulement on ne va pas être prêt à avancer sur le dharma parce qu'il y a encore quelque chose qui va nous retenir. Dans le sens, ouais, mais il y a peut-être un phénomène qui vaut vraiment le coup. Donc là, c'est, ça parle de la méditation. La méditation, c'est vraiment, je m'assois sur le coussin, quoi. C'est j'arrête de chercher le bonheur, j'apprends à être heureux. C'est, j'apprends à être à bien, quel que soit ce qui se passe dans mon esprit. Donc si notre esprit est encore sous l'emprise du samsara, on ne va pas être suffisamment enclin à s'asseoir et à arrêter de poursuivre nos objectifs futiles. Parce qu'on ne va pas en voir la futilité. Une fois que cette lassitude elle est profondément là, ça va être beaucoup plus facile de s'asseoir en méditation et que les expériences s'élèvent. Et le dharma, on va le comprendre plus profondément. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la notion d'avancer sur le chemin du dharma. Ça, les jambes de la méditation. Mais même si on comprend ça, en fait, voilà, même si on comprend que le samsara, ça nous pourrit la vie, même si on voit dans notre fonctionnement que ça va vraiment, que notre façon de réagir aux choses, là, ça nous entraîne dans quelque chose qui ne va pas être bon pour nous, ben, n'empêche que très souvent, on va le faire quand même. On va le faire quand même parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une tendance qui est là depuis des temps sans commencement. On a un fonctionnement qui est automatique, qui est très fort, qui est très puissant, une habitude qui est très ancrée, et c'est très difficile de désamorcer ça. Donc la compréhension intellectuelle, ça ne va pas forcément suffire, même si elle est fondamentale. Il va falloir répéter encore et encore. Et quand on va tomber dans le même panneau encore et encore, il ne faut absolument pas culpabiliser. Surtout pas. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de raison de culpabiliser, que si on en est là, c'est parce que l'habitude est très forte et qu'on travaille sur quelque chose de très profond. Donc ça ne va pas se faire comme ça. Et c'est là que peut intervenir la prière. Par exemple, quand on se voit retomber dans les mêmes chemins, sachant pertinemment qu'on va droit dans le mur, eh ben, il est encore temps en fait d'adresser une prière. Puissais-je alors après, on va trouver nos mots. Là, c'est par exemple « Accordez-moi votre grâce, que je sois détaché des honneurs et des possessions. » C'est une prière, il ne faut pas attendre d'être détaché des honneurs et des possessions pour le faire. Il suffit de se voir en flagrant délit, d'être sous l'emprise de l'avidité, de poursuivre des entreprises samsariques. On sait qu'on ne va pas avoir gain de cause, ça ne va pas nous rendre profondément heureux, que ça nous cause des problèmes. C'est à ce moment-là qu'on peut encore formuler cette prière du fond du cœur. Puissais-je arrêter de voir de l'intérêt à ça? Puissais-je arrêter de souffrir par avidité, de courir après ces choses qui n'en valent pas la peine? Parce qu'au moment même où on retombe dans le même chemin, bah ça continue de planter des graines positives et de nous orienter. Et ça peut vraiment avoir un impact très fort et changer la donne. Il y en a qui n'ont pas de problème à adresser ces prières au maître. Voilà, parce que dans le bouddhisme tibétain, vous savez, quand on parle d'être éveillé, c'est presque réducteur. Parce que ça ne traduit pas ce que c'est que l'éveil. L'éveil, bon voilà, un être éveillé, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas trop quoi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui réalise l'éveil, un être ordinaire ne peut pas concevoir toutes les qualités qui en découlent. C'est vraiment, réaliser l'éveil, c'est vraiment avoir accès à quelque chose qui est inconcevable en termes de qualité, en termes de... Il n'y a plus de limitation, il n'y a pas de limitation à l'éveil. Les êtres éveillés ne sont plus limités ni par le temps, ni par l'espace, ni par les moyens, ni par la quantité. Ils peuvent prendre n'importe quelle forme pour être les êtres, n'importe quel moyen, n'importe quel... Et ça, c'est impossible à concevoir pour nous. On peut l'admettre, on peut l'imaginer, mais on ne peut pas réaliser les possibilités qui viennent de ça. Mais si il y a une ouverture d'esprit par rapport à ça, eh ben, beaucoup n'hésitent pas en fait à considérer que les êtres éveillés sont là parmi nous. Il suffit de les solliciter. On peut bénéficier de leur inspiration, de leur bénédiction, de leur sagesse en les évoquant, en les invoquant par la prière. Voilà. Puissiez-vous m'inspirer pour que le renoncement, un renoncement véritable naisse dans mon esprit, une compréhension véritable dans mon esprit, et puis que j'arrête de retomber dans ce même truc. Et si ça nous parle pas, on peut l'adresser à nous-mêmes, ça marche tout aussi bien. C'est-à-dire si vraiment cette prière s'adresse à nous-mêmes, ou se prend flagrant délit d'un comportement dont, voilà, qu'on a envie de rejeter, bah, de se dire, voilà, est-ce qu'un jour, tu, enfin voilà, puisses-tu un jour arrêter de fonctionner comme ça, quoi, arrêter de te raconter des histoires. Ça va, faut pas négliger ça, ça peut laisser une empreinte très très forte dans l'esprit. Et on est en train de pratiquer là à ce moment-là, parce qu'on se voit. Voilà, bah, je crois que je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions ?
J'aurais une question, mais pas directement liée à l'instruction d'aujourd'hui, mais plus généralement, tu nous avais conseillé la dernière fois de lire la vie de tous ces disciples renommés. J'ai acheté pas mal de bouquins, parce que j'ai acheté des bouquins d'occasion. J'en ai trouvé pas mal, j'ai juste pas trouvé Tilopa. Mais est-ce qu'il faut les prendre dans l'ordre, ou dans quel ordre il faut les prendre, ou
aucune importance ? Non, au contraire, prends celui qui t'inspire le plus. Voilà, ouais.
Le fait que l'un soit le disciple de l'autre,
ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est qu'on se fasse plaisir, quoi. Enfin, voilà. Puis après, tu auras peut-être envie d'en lire d'autres.
Je bataille encore avec le livre de Ringo Rinpoche.
Tu te batailles ?
Ah ouais, je trouve difficile.
Ah ouais ?
Alors que Samten m'avait dit, il est très abordable.
Bah, ça dépend, ouais, ça dépend des gens. Il y a des gens qui le trouvent très abordable, il y en a qui trouvent que c'est pas si évident que ça.
C'est pas évident. D'ailleurs, à propos de Ringo, on aura les enregistrements quand ?
Je crois qu'ils sont déjà accessibles. Moi, j'ai entendu que...
T'as pas eu d'infos ?
Vous n'avez pas eu de mail concernant les enseignements de Ringo ? Ah bah, je vais me renseigner alors. Bon, on se revoit en janvier alors.
Avec plaisir.
On va faire la dédicace. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.